Et on se retrouve de nouveau en direct du Livrodrome avec Aurélien Morinière. Il est 16h et je vais laisser la parole à Melchior.
Bonjour.
Appuie sur ton bouton.
Bonjour.
Bonjour.
je vais d'abord lire votre biographie, si vous le permettez. Oui. Alors, Aurélien Morinière, Homo sapiens, mammifère de la mammifère mâle de la famille des hominidés, bipède omnivore, a publié de nombreux albums de bandes dessinées, livres d'images très codifiés. Alors, Aurélien Morinière est un dessinateur de bandes dessinées français. Il a aussi réalisé des expositions de peinture et a illustré des contes pour la jeunesse. Il a fait des études à la Sorbonne à Paris, c'est exact ?
Oui, c'est ça. Oui.
Et il a dessiné de nombreuses BD, 24 titres, je crois.
Oui, alors je crois qu'il y en a un peu plus maintenant. Oui.
Et il habite dans le Limousin depuis 2003 ?
Ouais.
Bon, bah voilà.
C'est un bon résumé.
Je vais maintenant laisser la parole à toujours Melchior et Romain qui vont vous interviewer, Aurélien Morinière.
Et tout de suite, l'interview.
T'es qui ? T'appelles comment ?
T'as quitté pourquoi ?
Mais tu viens d'où ?
C'est quoi ton shampoing ?
Tu fais quoi ? T'existes ?
C'est qui ?
Tu fais quoi ?
C'est quoi ton nom ?
Comment tu t'appelles ?
C'est quoi ta vie ?
T'as fait des études ?
Une de chaque.
Alors, je vais vous poser ma première question. Alors, pourquoi avoir choisi d'illustrer cette BD sur la guerre ?
Alors, moi, c'est pas mon univers graphique, forcément, la BD historique. Mais les scénaristes sont venus me chercher jusque en Limousin, avec très très motivés pour que je travaille avec eux. Et ils ont réussi à me séduire par les émotions qui les traversaient quand ils me racontaient ce récit, qui est un récit qui... traite surtout des problématiques de l'identité en période de chaos, comment on se construit dans ces périodes-là. C'est pas des questions que moi qui m'ont traversé parce que voilà, j'ai pas eu de problématiques d'identité multiple dans le sens où je suis né français sans ces questionnements-là, alors que tous les deux ils ont un parcours plus complexe. Elle est franco-allemande. Lui, il est franco-irlandais chilien. Donc, ils ont des questions par rapport à leurs origines et les questionnements qui sont liés à leur naissance, qui sont beaucoup plus sensibles. Et moi, ça m'a ému et j'ai eu envie de leur donner un peu de corps à ces émotions par mon trait. Je me suis senti dans le rôle de vecteur, quoi.
D'accord. Donc vous venez de dire que le style plutôt historique, c'est pas vraiment le vôtre.
Ouais.
Vers quel style vous vous tournez plus alors ?
Alors moi spontanément, je vais plus vers du fantastique, quelque chose d'assez sombre qui est assez proche de la poésie noire du 19e ou voilà, genre de choses, ou la peinture expressionniste aussi, des choses comme ça. Donc après l'historique c'est aussi un sujet. Moi c'est plutôt le fantastique. Là c'est vraiment très réaliste. L'histoire de visage de cette bande dessinée, c'est vraiment ancré dans le réel.
Pourquoi le fantastique ?
Je sais pas. C'est ce que m'inspire un peu le Limousin globalement. Voilà, je sais pas, les balades dans la forêt, les nuits dans les bois, ça m'inspire des choses un peu étranges et sombres. Et voilà, j'ai toujours été fasciné par l'ambiguïté du rapport de notre espèce à la nature et au fait que ça génère énormément de mythologie et de croyances. Et je trouve que c'est un terreau très fertile pour raconter des histoires. Essayer d'exploiter cette crédulité de notre espèce en essayant d'ancrer... Le fantastique dans le réel, et donc dans les forêts limousines, je trouve que ça marche très très bien.
D'accord. Je laisse la parole à Melchior.
Oui, alors quel est votre type de livre favori, par exemple, que vous avez dans votre poche, que vous lisez en ce moment, et si vous avez un titre en particulier, j'aimerais bien le savoir.
un titre en particulier. Alors moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Et bon, du coup, moi, je conseille toujours, quand on parle de science-fiction, Dan Simmons, parce que je trouve que c'est un conteur incroyable. Pas très facile d'accès au début, parce que c'est presque de la hard SF, c'est-à-dire c'est très scientifique. Et en même temps, c'est plein de poésie. Donc j'aime beaucoup sa manière d'aborder le genre science-fiction. C'est drôle parce que j'ai jamais vraiment, à part ma première BD qui était un peu proche de la science-fiction, même si c'était un polar, j'ai jamais trop abordé le genre SF en bande dessinée. Et c'est peut-être un truc qui va venir, mais ça me fait un peu peur en même temps, parce que je suis un peu exigeant avec ce genre-là. Voilà. Mm-hmm. Donc peut-être, comme bouquin, je conseillerais Hyperion de Dan Simmons. Cantos d'Hyperion.
Quel est votre instrument de dessin préféré entre peinture et bande dessinée, dessin ?
Oh là là, je crois que tout se complète en fait. J'ai pas de préférence. La bande dessinée, je la réalise avec un ordinateur. Mais ça, c'est parce que je suis très bordélique, très mal organisé. Donc ça me permet de tout centraliser dans une même machine. Donc c'est bien, ça m'évite d'en mettre partout. Mais j'aime beaucoup dessiner au stylo à billes en ce moment, c'est beaucoup ça. J'aime beaucoup dessiner au stylo. Je retourne à des outils qui sont un peu primaires, dans le sens où c'est un outil qu'on a dès l'école primaire, d'ailleurs. Et on peut faire des tas de trucs super avec un stylo à billes, voilà.
Bon, bah...
Vous avez dessiné, là, pendant ce livre-drôme? Est-ce qu'il y a un petit stylo bille, un carnet qui se balade dans votre poche ou dans votre sac?
J'ai dessiné juste avant l'interview. Là, j'ai réussi à trouver le temps de gribouiller un peu.
On veut savoir quoi?
J'ai fait un portrait. Je vais vous montrer comme ça. Attendez, faut que je vous montre.
On doit vous avouer, on a des indiques en fait un peu partout là sur le quai Baluse qui viennent épier ce que font chaque auteur, dessinateur. Et on m'a dit dans l'oreillette que il y avait des trucs pas mal sur votre carnet.
Je viens de le commencer le carnet. J'ai fait ces deux visages là. J'ai juste eu le temps de ça.
Ouais, au bic.
Au bic. Aux quatre couleurs.
Ah, c'est magnifique.
Merci, c'est gentil.
Qu'est-ce que vous écrivez ?
Ouais, les enfants. Alors, les auditeurs, bien sûr, ne voient pas ce carnet. Donc, on va essayer de les faire imaginer ce que nous avons sous les yeux.
Ah, qui c'est qui sont
une âme de description. Avec un micro.
Merci. Sur la première page du carnet, on voit un homme en tenue de combat, avec une armure, une épée un peu brisée, j'ai l'impression. Il a des flèches dans la fourrure qui lui sert de cape, entre guillemets. Il a un œil avec un bandeau comme les pirates. Il a des cheveux un peu longs. Ça me fait penser à un jeu vidéo, un personnage sorti d'une cité médiévale qui a fait la guerre.
Ouais.
Les autres.
Après, il y a un portrait de femme.
Clélia, tu peux le décrire ?
Donc, sur la page suivante, il y a donc deux portraits. Le premier, c'est une femme qui est de trois quarts. Donc, on voit ses cheveux, une partie de ses cheveux seulement. Elle nous regarde, elle a l'air assez déterminée. Elle a un t-shirt à col assez étonnant. On dirait un peu des pétales qui remontent vers son cou. Donc, le t-shirt est vert. Voilà, elle a une posture assez sèche, je dirais. Elle nous regarde et elle nous défie.
Elle nous juge.
Et quelqu'un d'autre pour le dernier ?
Le dernier ?
Le dernier n'est peut-être pas facile à décrire, c'est quand même un monsieur assez random. Hein.
Romain, t'avais l'air de...
D'accord. Alors, on a juste... donc ça, c'est plutôt un homme, donc il est de profil. Donc on voit juste son visage et quelques traits qui définissent la forme de sa tête. Donc il le regarde plutôt dans le vide, parce qu'il a des lunettes. On n'arrive pas à distinguer ses yeux. Il a le visage fermé et il n'y a aucune expression.
Ben, merci tout le monde. Est-ce qu'il y avait encore des questions pour l'interview ? Oui ? Bon, bah, je vous laisse.
Bon bah, je vais laisser la parole à Romain pour qu'il continue. Bon, bah, je continue.
Il a éteint le micro.
Ah mince. Ah non.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être dessinateur de BD et peintre en tout genre? Et aussi, j'ai vu, bah après, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu sur une biographie de vous que vous êtes photographe aussi.
Oui, alors je suis photographe comme plein de gens sont photographes. Mais j'aime beaucoup ça, oui. Je fais de la photo parce que c'est une manière de flâner. Je prends surtout des photos de paysages. C'est une manière de regarder, d'être attentif différemment que juste quand on marche dans la forêt. Avoir un objectif de prendre des photos, ça oblige à observer les choses différemment et à chercher une composition, à s'arrêter plus souvent. Voilà, c'est une sorte de manière d'être plus lent, d'être plus contemplatif. Et ce qui m'a donné envie de dessiner, déjà je crois que j'avais en tête l'idée que je ne savais rien faire d'autre. Enfin, en tout cas, c'était quelque chose qui était très présent depuis que j'étais tout petit. Et enfin, c'était quelque chose qui m'évitait de me poser trop de questions. Ça, je sais faire. Ou en tout cas, les autres avaient l'air de trouver que c'était bien. Donc, je me suis fié à leur regard. Et au final, j'ai suivi un peu ce fil-là. J'ai pas l'impression d'avoir vraiment questionné le truc, c'est-à-dire que c'était un peu une évidence. Non pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais l'impression que j'avais un chemin un peu tout tracé. Après, c'est pas pour autant que les portes s'ouvrent toutes seules, mais une fois que tu as une certitude sur le fait que tu as en tout cas une capacité et un centre d'intérêt qui est là depuis longtemps, et qui te suit, au final, même si c'est pas toujours facile, au moins ça évite de se poser trop de questions. C'est-à-dire c'est ça que je sais faire, donc c'est ça que je vais faire toute ma vie. J'espère que ce sera le cas, hein. En tout cas, je pense que j'aurai du mal à me passer du dessin. C'est une chance d'avoir pu en faire un métier, c'était pas garanti pour autant, hein. En tout cas, j'ai eu la chance d'être assez convaincant pour qu'on me laisse cette chance-là, quoi.
Mm-hmm, d'accord. Et... est-ce que vous êtes inspiré d'autres bandes dessinées ou de mangas ou d'auteurs que vous appréciez particulièrement pour vous créer vous-même vos univers, vos méthodes de dessin?
Alors quand j'étais petit, j'étais très inspiré par Gottlieb ou cette école-là de plutôt comique, Fluide Glacial, tous les auteurs de Fluide Glacial. En vieillissant, ça a été surtout Moebius qui m'a inspiré. Donc j'ai beaucoup reproduit des dessins... dans ce genre de style-là, évidemment, le mimétisme, c'est une très très bonne école, c'est assez normal de reproduire des choses. En manga, c'est moins ma culture, mais j'ai beaucoup lu Akira et le travail de Masamune Shirow, avec une trône dépôt, notamment des artbooks que je l'ai cherché à Paris chez Tonkam, librairie Tonkam, pionnière du manga en France. Et puis après, ça a évolué, c'est-à-dire évidemment, on a des artistes qui nous suivent et qui nous inspirent tout au long de notre évolution artistique. Maintenant, c'est plus dilué, c'est-à-dire que c'est des références, mais c'est pas forcément des gens, des artistes sur lesquels je vais calquer mon style graphique. Je pense que j'ai réussi à m'en affranchir, mais c'est venu tard. C'est-à-dire que j'avais déjà 10 ans de carrière quand je me suis senti beaucoup plus indépendant de ces sources d'inspiration-là. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui me questionnent et qui me disent « Oui, comment on trouve son propre style ?» Je fais « En fait, il ne faut pas le chercher, il faut essayer de reproduire les choses, ce qui nous inspire, ce qui ressemble à notre sensibilité, et puis être curieux, c'est-à-dire pas se fixer sur un genre graphique. C'est-à-dire que je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant, par exemple, de lire du manga, mais de lire aussi d'autres choses. Moi, j'étais inspiré aussi par le comics, le manga et la BD européenne. Voilà, sans vraiment de me fixer sur un truc vraiment, vraiment figé, quoi. Voilà, donc faut être curieux et puis ça finit par émerger tout seul, quoi.
D'accord, merci beaucoup. Romain, as-tu retrouvé ta question maintenant?
Alors j'allais justement vous demander s'il y avait des illustrateurs en particulier ou des mouvements artistiques qui vous avaient inspiré.
Alors mouvement artistique, oui, c'est plus vaste que juste dessinateur de BD. ça peut être, voilà, j'ai parlé du romantisme du 19e, ça peut être aussi des artistes comme Goya en peinture, ou Rembrandt, ou Alphonse Mouchard, et puis voilà, des artistes qui ne sont pas des artistes de BD, mais qui sont forcément très inspirants. Enfin, quand on commence la BD, on est très très focalisé sur la bande dessinée, mais avec la curiosité, on va s'ouvrir sur d'autres formes d'art, et il y a la musique aussi qui peut influencer beaucoup le travail, parce qu'on travaille beaucoup en musique. Donc c'est pas directement des sources d'inspiration qui se voient dans les livres, mais en tout cas ça peut aussi générer une atmosphère qui nourrit l'imaginaire et qui influence notre travail.
Quel est l'ouvrage que vous avez illustré que vous aimez le plus?
C'est souvent le dernier. Non, en ce moment, il y a effectivement Visage, parce que c'est le dernier, que c'est une aventure assez longue, ça a duré 6 ans. Là, je viens de terminer le tome 4 qui sort en octobre, donc c'est tout fraîchement terminé, c'est-à-dire que j'ai terminé la semaine dernière. Et donc, une série de 4 tomes, c'est assez prenant. Plein d'émotions qui sont aussi liées à mon rapport amical avec mes scénaristes. Et puis, l'autre BD de cœur, dont je vais démarrer une sorte de suite en septembre. Ça s'appelle L'Homme Book. Et ça se passe en Limousin. Donc c'est un roman graphique, un polar, un thriller horrifique en noir et blanc qui n'est pas pour les enfants, mais voilà. Mais ça se passe ici, enfin en Creuse, enfin sur le plateau de Mille Vaches. Donc c'est aussi lié à un travail d'illustration très personnel, dont s'est inspiré mon scénariste Éric Corbeyran pour écrire l'histoire. Donc c'est hyper, hyper intime et personnel comme travail. Et je suis très content de remettre le couvert avec lui en septembre.
D'accord. Je pense que nous allons maintenant pouvoir passer au portrait chinois.
Ah. Allez.
Alors, c'est un jeu très simple. Vous allez devoir répondre à quelques questions.
Et maintenant,
le portrait chinois.
Non, 32, 3.
Certains sont collés.
Il y en a qui sont collés. Bon,
un ou deux papiers.
Si j'étais une figure de style, je serais... Oh là là. Qu'est-ce que je serais? Une métaphore, peut-être. Quelque chose de un peu... Un peu symbolique et pas forcément... pas très littéral, quoi. Quelque chose... avec des circonvolutions.
D'accord. On enchaîne avec une autre.
Celle qui est derrière, c'est si j'étais un plat, je serais... Le premier qui me vient, c'est bizarre, c'est pas du tout de saison. J'avais pensé à la raclette, c'est pas hyper élaboré, mais... Pourtant, j'ai pas du tout, c'est pas le moment du tout, j'ai envie d'une raclette. Ah, il fait que du fromage, quoi. Un truc avec du fromage, peut-être le fond du creusot. Mais la raclette, c'est plus mon truc. Du fromage, un fromage limousin, une tome limousine sinon.
D'accord.
Puisqu'on a encore un peu de temps, moi j'avais une question. Donc vous parliez du Limousin, vous êtes installé, ça fait 20 ans déjà en fait.
Ouais, il y a prescription avant.
Il y a prescription. Vous êtes parisien, donc ça y est maintenant on peut...
Non, je suis pas parisien.
Pas parisien. Mais alors qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans le... Pardon pour l'expression, le trou du cul de la France? Parce qu'on n'avait pas encore tous nos présidents à ce moment-là. Les anarchistes, peut-être?
Alors, j'ai suivi la maman de mes filles, mais c'était une très bonne chose parce que finalement, je me suis retrouvé... En tant que parisien, je n'ai jamais senti de racines. C'est difficile de s'enraciner dans une ville aussi cosmopolite et qui n'a pas de visage, finalement. Enfin, il y a le visage de la cité, mais en tout cas, en tant que terroir, c'est plus compliqué, en tout cas pour moi. En arrivant ici, je sais pas, c'est le rapport à la terre, à la forêt, quelque chose qui est beaucoup plus sensuel pour moi. J'ai senti immédiatement une attirance pour cet endroit et son côté un peu secret, pas grandiose, mais doux et un peu secret. Voilà, comme la Comté un peu dans Le Seigneur des Anneaux.
Et alors, est-ce que cette installation en Limousin, ça a changé quelque chose dans votre façon de travailler?
Alors oui. Oui, c'est-à-dire que ça a mis du temps à mûrir, hein, mais justement, ça a donné lieu à une série d'illustrations beaucoup plus personnelles que ce que je faisais avant en bande dessinée. Donc j'ai fait une série d'illustrations et de poèmes, ça a commencé en 2010 ou 11, qui était inspiré par, alors c'est pas littéralement le Limousin, mais en tout cas par la nature et le rapport de mon rapport avec la nature, qui était ambigu et à la fois sensuel et peut-être sombre aussi. C'est-à-dire la nature, pour moi, c'est quelque chose qui relève aussi du danger et de la sensualité. Donc c'était quelque chose de cet ordre-là qui m'a inspiré.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci à vous.
Est-ce qu'il vous reste des questions, Melchior et Romain?
Oui. Alors, est-ce que vous avez, et dans ce cas, quel serait votre processus de réalisation ou vos rituels avant de commencer à dessiner?
Mon processus de réalisation, alors avant, dans, la morning routine, c'est ça? Alors disons que c'est pas quotidien, mais en tout cas il faut à un moment donné que j'aille prendre l'air, quoi. C'est-à-dire le contact avec l'extérieur, la lumière, les saisons qui passent, enfin voilà, le contact direct avec quelque chose qui est complètement extérieur au monde de la BD, voilà, quelque chose qui est même extérieur au monde des humains. C'est quelque chose qui va être nécessaire à un moment donné pour me recentrer et être créatif, quoi. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Si peut-être, pouvez-vous décrire du coup une planche de votre BD Visage?
Ah oui, on avait parlé d'une planche, alors qui est une double page, qui est, alors elle marque page, mais il est enfoui, je sais pas où. Ah, il est là. C'est la page 32, une double page qui représente les tranchées pendant la Première Guerre mondiale avec des coupures de journaux. Donc on a à la fois le quotidien des tranchées qui est représenté et la communication par la presse des deux camps qui ont chacun leur figure héroïque qui sont Liselotte, l'ange des tranchées, qui est infirmière et photographe, et Louis l'Immortel, qui est Liselotte qui est allemande. Et Louis l'Immortel qui est français, donc avec le journal Le Miroir, emblématique de cette période là aussi, et qui est aussi le rapport à la presse est important dans la série entière, puisque Liselotte est journaliste, et en fait on a un rapport, on suit un peu ce rapport là tout au long de la série qui fait 4 tomes, parce que effectivement pendant la Première Guerre mondiale il y a ces communications autour de l'héroïsme dans les journaux qui permettaient de galvaniser un peu les troupes et de motiver les soldats, voilà, parce que c'est une guerre qui était censée durer que quelques semaines et qui finalement a duré beaucoup plus longtemps. Et puis par la suite, entre les deux guerres, il y a eu quand même le musellement de la presse en Allemagne. Voilà, il y a toujours eu, pendant les périodes de guerre, la presse est un outil de propagande et un outil aussi politique. Et quand elle ne sert pas les intentions du pouvoir, elle est forcément brimée et bridée, quoi. Donc c'est un point central quand même assez important en filigrane de ce récit-là et de cette série. Voilà, donc c'est pour ça que cette double page qui est très graphique me semble aussi assez importante, puisque c'est un fil qu'on suit sur 4 livres.
Merci beaucoup.
Merci
à vous.
Merci. Maintenant, on va passer une musique qui a été sélectionnée par Melchior, qui pourra nous expliquer pourquoi après, quand on l'aura écouté.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfait. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non, fichtre, non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'osent pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Et vous, Aurélien Morinière, quelle est votre guerre préférée ?
La guerre des boutons. Là, au moins, on est ouais, pas trop de dégâts.
Et toi, Melchior ?
Non.
Tu m'as dit à l'oreillette tout à l'heure la guerre de Troie.
Oui, bah...
Ça
n'a
pas eu lieu.
Parce qu'on ne sait même pas
voilà.
Ça.
Voilà, ça n'a pas eu lieu.
Et merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette musique, Melchior ?
Après, je sais pas, je l'ai choisi juste parce que je trouvais que ça allait bien du coup avec la BD. Parce que justement, bon, après une partie, même si j'ai lu que le premier tome, une partie en tout cas se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil. Voilà.
D'accord.
Ça se tient debout.
Est-ce qu'il reste des questions à poser ?
Non.
Non.
Si ?
C'est une question que je ne sais plus qui a posée à un autre illustrateur ce matin. Pour vous, est-ce qu'il y a une différence entre illustrateur et dessinateur et pourquoi ?
Oh, ça, c'est des questions de vocabulaire. La plupart du temps, on est un peu les deux. Enfin, disons que les dessinateurs de BD sont souvent des illustrateurs aussi par ailleurs. Après, des illustrateurs de livres jeunesse ne sont pas forcément des dessinateurs de BD, parce que c'est une narration un peu différente. Mais c'est très poreux. Hein. Ces deux métiers sont très poreux souvent, on fait les deux. Voilà, je ne saurais pas dire, j'ai l'impression que le terme dessinateur est plus lié à quelque chose de besogneux peut-être. L'illustrateur, ça fait plus artiste et plus peut-être plus de liberté, moins de contraignant peut-être. Et c'est peut-être aussi lié au fait que la bande dessinée est très codifiée et impose un cadre et un temps de travail qui est quand même particulièrement long. Faire une bande dessinée, c'est de l'artisanat sur un an et demi sur une même histoire. Donc voilà, c'est peut-être cette image que j'ai en tête qui va faire une petite différence. Mais finalement, c'est chacun qui projette des choses dans ces deux mots-là qui sont très très cousins, quoi.
D'accord. Merci.
Ouais, avant qu'on se quitte, peut-être un mot, on va sortir un tout petit peu de l'activité littéraire, mais sur votre travail de peintre. C'est ce qui est, je trouve, très mis en valeur sur votre site. D'ailleurs, j'ai un peu du mal à me représenter les formats de vos peintures. Quand je les vois comme ça, il y a quelque chose qui me saisit, j'ai l'impression que c'est des super grands formats. Mais en fait, j'en sais rien. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ? Effectivement, la référence à l'expressionnisme allemand, ça m'évoque quelque chose, oui, quand je vois vos travaux. Ou à William Blake, je ne sais pas pourquoi.
Ah oui, cool. En fait, c'est très variable. Il y a des très grands formats, c'est-à-dire j'ai pu faire des formats d'un mètre cinquante, deux mètres. D'ailleurs, là, je fais aussi des live paintings en musique. Je vais en faire un ce week-end à Meaux, musée de la Grande Guerre d'ailleurs, qui font 2,50 m. Voilà. Mais ça, c'est un travail de performance autant que de peinture. Mais y a des tout petits formats aussi. Hein. J'ai fait des petites expériences sur des formats de 10 par 10. Voilà. C'est une activité qui me permet de sortir d'un carcan BD qui contraint un petit peu par ses cases et ses formats imposés et qui permet de mettre en jeu, la peinture permet de mettre en jeu le corps, donc qui est aussi un rapport plus sensuel au support et à la matière. Mais je vous avouerai qu'en ce moment, je n'ai pas eu beaucoup le temps depuis quelques mois de peindre puisque j'étais en bouclage d'album, mais ça va revenir. Voilà, donc les formats sont très variables et oui, effectivement, il y en a qui peuvent être assez vastes. Après, je commence à revenir un peu là-dessus, c'est-à-dire que j'ai très envie de faire des très grands formats de 2 mètres, voire 3 mètres, mais le problème, c'est qu'après, il faut savoir ce qu'on en fait. Et ça, c'est une vraie question. Et comment on les expose et comment on les montre?
Faut être Giotto, quoi.
C'est un peu ça, ouais. C'est ça. Et puis, voilà, moi, au départ, je peins pour moi. Donc après, je peux les exposer, mais il faut avoir une galerie ou des endroits pour les montrer. Mais chez moi, ça prend de la place aussi. Même si la maison est un peu grande et l'atelier est assez grand, voilà, ça devient compliqué. C'est des logiques, c'est assez trivial hein, comme réflexion, mais voilà.
Peut-être avant qu'on enchaîne avec une dernière musique choisie par Philippe, j'avais une question un peu, un peu gossip. On m'a dit que vous étiez présent au Festival d'Angoulême, parce que c'était cette année.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce festival? C'est un peu la consécration pour un...
Ah, je sais pas, c'est assez... Moi, ça faisait 12 ans que j'étais pas allé à Angoulême. La dernière fois, c'était en 2011. Mais j'ai pas eu de sortie qui correspondait au moment d'Angoulême. Alors, c'est intéressant parce qu'on croise toute la profession. Mais en vrai, moi, le côté mondain, ça me gonfle un peu, je vous avouerai. Après, c'est toujours chouette de rencontrer les lectrices et les lecteurs. Mais en vérité, Angoulême, c'est pas le meilleur endroit pour ça. Je préfère les petits festivals locaux où on va croiser des gens qui sont pas forcément des lectrices et des lecteurs de BD, mais qui vont découvrir des choses, avec qui on peut avoir un peu de temps pour discuter, avec lesquels on peut, pour qui on peut faire des dédicaces un peu plus poussées parce qu'on a plus du temps, on a plus de temps. Et Angoulême, c'est impressionnant parce qu'il y a un monde fou, parce qu'on croise des auteurs et des autrices qu'on connaît que de nom finalement, on est un peu toutes et tous dans notre grotte et donc c'est toujours intéressant, mais c'est quand même un peu trop gros pour moi quoi. Si je me suis planqué dans la Creuse, il y a une raison quoi.
Alors, quand on est planqué dans la Creuse, comment est-ce qu'on va à la rencontre de son lectorat si on enlève effectivement les grands festivals ou les espaces dédiés aux livres?
En fait, il y a plein d'outils maintenant. Il y a les réseaux sociaux, donc il y a Instagram, les trucs comme ça, et même TikTok. Bon, ça, je suis pas très. J'y suis, mais je sais pas trop quoi en faire. Il y a Twitch aussi, le streaming, donc où je travaille en direct avec des gens qui me regardent, qui travaillent aussi souvent en même temps, parce que moi je suis très studieux, donc je ne suis pas là pour animer la chaîne, je dessine et puis on papote, mais je ne suis pas là pour faire le spectacle, donc je suis très studieux et les gens, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont aussi studieux, qui travaillent en même temps. Voilà, c'est des outils qui peuvent permettre aussi de communiquer sur son travail, le rendre visible et aussi de rendre visible le processus créatif, ce que je trouve particulièrement intéressant parce que il y a beaucoup de jeunes qui sont hyper intimidés par le fait de faire de la bande dessinée. Et quand ils se rendent compte, avec des outils comme ça, on voit les artistes travailler en direct, ils se rendent compte que on tâtonne et qu'on bricole aussi et qu'il n'y a pas de bonne manière, figée de réaliser une bande dessinée ou de travailler le dessin. C'est beaucoup de l'exploration et de l'échec et des essais. Alors évidemment, il faut apprendre à dessiner, il faut être rigoureux et tout ça, mais c'est beaucoup de tâtonnement et de tambouille un peu personnel. Il n'y a pas de règle définitive et figée. Et je pense que le fait de maintenant que les réseaux donnent accès à ces processus créatifs, ça désinhibe beaucoup de jeunes artistes qui se sentent beaucoup plus libres de montrer ce qu'ils font, quoi. Et ça, je trouve ça très chouette.
Alors avant de lancer le titre choisi par Philippe, je vais m'atteler à une transition superbe. Aurélien Morinière, est-ce qu'il y a une fontaine près de votre maison ?
Bah, y a toujours des fontaines en Limousin. Oui, il y a une fontaine, enfin une fontaine, il y a une source. Voilà.
Merci.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentez la confiture.